RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bienvenue à Dunkerque au terme de la troisième étape du Tour de France qui s'est donc achevée il y a une petite heure maintenant par la victoire du sprinter belge Tim Merlier de la formation Soudal Quickstep, le champion d'Europe qui a devancé d'une courte tête mais d'un demi-boyau seulement l'italien Jonathan Milan, le costaud de la formation Lidl Trek qui se console en décrochant le maillot vert de meilleur sprinter de ce Tour de France. Et oui, parce qu'il y a eu un changement de leader dans ce classement après la chute et l'abandon de Jasper Philipsen, vainqueur de la première étape, qui avait également porté le maillot jaune à l'issue de cette première étape et qui a été victime d'une grosse chute au sprint intermédiaire. On y reviendra évidemment. Ça n'a pas été la seule chute de la journée. D'autres coureurs ont été jetés au sol, notamment dans l'emballage final d'une étape qui ne restera pas, malgré ça, dans les esprits, car il n'y a eu aucune échappée aujourd'hui. Le vent de face a empêché toute velléité des coureurs de ce Tour de France 2025. On va revenir sur tout ça. On évoquera également la prestation de Kevin Vauclin, maillot blanc de Tour de France, le jeune Français sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. On parlera aussi de l'étape de demain, la quatrième étape avec l'arrivée à Rouen, et une étape sans doute beaucoup plus mouvementée que celle d'aujourd'hui en termes de spectacle en tous les cas. On va donc évoquer tout cela avec toute l'équipe de l'After Tour composée de Maria Azé. Bonjour, bonsoir Maria.
Bonsoir Christophe.
Après
bonsoir,
son premier sprint commenté tout à l'heure, pas facile, hein. C'était pas un cadeau ce premier sprint.
Non,
hein.
C'était pas un cadeau. Et d'ailleurs, j'avoue ma faute, je me suis trompée, j'ai dit Jonathan Milan.
Ah, mais bon, ça s'est joué d'un demi-boyau.
Jérôme Pinot m'a dit qu'il pensait que c'était Jonathan Milan aussi dans son bras.
Alors, il y a quand même un signe qui ne trompe pas, c'est lorsqu'un coureur lève le bras, en l'occurrence Merlier a levé le bras, Jérôme Coppel.
Et oui.
Et donc, oui. Ça veut dire que ça peut être du bluff aussi, non?
Oui,
c'est rarement du bluff.
Il y a une époque, oui, maintenant avec la photo finish, tu peux quand même plus trop influencer les commissaires. Eux, ils le voient, sur le vélo, s'ils ont un peu d'avance, mais c'était un très beau sprint.
Il n'y avait pas grand-chose, hein, pas de gros écarts entre les deux. Jérôme Coppel qui était donc à mes côtés dans le camion, alors que Jérôme Pinot descend de sa moto, il a les cheveux en bataille ce soir, à l'issue de cette troisième étape. Ça va, ça a soufflé dans les oreilles et dans les cheveux quand même aujourd'hui. Hein.
Ça a soufflé fort aujourd'hui.
Ouais.
J'ai pris l'air. Hein.
T'as pris l'air, oui.
J'ai pas vu de coureur, j'ai pris l'air.
Oui, c'est un peu frustrant quand même, quand on fait de la moto, qu'on ne voit pas un coureur de la journée.
Ouais, ouais. C'est une course de moto pour moi. C'est Johan Zarco qui a gagné.
Magnifique, mais bon, ça n'a pas été une étape magnifique. Mais au bout du compte, c'est donc un sprinter de haute trempe qui s'est imposé, Tim Merlier, dont on va vous parler dans un instant. Tout d'abord, eh bien, on revient sur ce qui s'est passé dans l'intégral tour tout à l'heure, sur cette troisième étape du Tour de France. C'est parti.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France. Troisième étape aujourd'hui de la Grande Boucle. Le peloton qui s'est lancé de Valenciennes en direction du Nord, le Grand Nord, direction Dunkerque. Nous allons donc vivre cette étape de 178 km. Oh la chute de Philipsen. Jasper Philipsen, le maillot vert,
bien
pluché avec l'épaule droite entamée. Il se tient l'épaule. Je pense que le Tour de France de Jasper Philipsen va malheureusement s'arrêter là. Les deux premiers jours de l'équipe Alpecin s'il avait été un véritable rêve, eh bien le rêve se transforme en cauchemar. 47 derniers kilomètres de cette longue, très longue étape, sans aucune échappée. 33 derniers kilomètres de cette troisième étape du Tour de France, avec la seule difficulté du jour, classée en quatrième catégorie, le Mont Cassel, 2,3 km d'ascension avec une pente moyenne de 3,8%, et un homme seul en tête.
Ouais, Tim Wellens, en effet, le coéquipier de Tadej Pogacar, qui est en plein dans ce Mont Cassel, qui est sorti tout seul pour aller récupérer ce maillot à poids.
C'est l'Alpe d'Huez du Nord, là. Il y a un monde fou dans ce Mont Cassel.
On approche enfin du terme de cette troisième étape qui n'aura pas marqué les esprits en termes d'événements sportifs.
RMC, la flamme rouge.
Jonathan Milan, Merlier ou alors Binyan Girmay, ils sont 20. Tous les fauves du sprint sont lancés à maintenant 800 mètres de la ligne d'arrivée.
Il la veut, Jonathan Milan, cette étape, on la voit. On le voit, le monstre de ce peloton. Jonathan Milan qui lance.
Ah oui, Milan et Merlier.
Jonathan Milan, Tim Merlier, ça va se jouer entre les deux. Jonathan Milan qui donne tout et c'est, je pense, Jonathan Milan.
Ah, c'est Merlier qui lève le bras. Qui lève le bras, Tim Merlier, le coureur de la formation de Soudal Quickstep. Ça s'est joué à rien.
RMC, l'After Tour.
Voilà, il a fallu attendre le développement de la photo finish pour connaître exactement le nom du vainqueur. Bon, on avait une chance sur deux, Maria. Toi, t'avais misé Milan, j'ai misé Merlier. J'ai vu le bras se lever.
C'est l'expérience. Donc,
c'est l'expérience.
La dernière fois que j'ai bossé comme ça, on m'a viré, moi.
Fais gaffe que ça t'arrive pas une nouvelle fois, fort de faire le malin. Victoire donc de Tim Merlier, alors qu'il était, Jérôme, qu'est-ce que tu voulais?
Je dis, je viens au soutien de Maria parce que sur la ligne d'arrivée ici, on est à Dunkerque, il y avait énormément de Belges. Moi, mon pilote, petit Marco, m'a déposé de l'autre côté de la ligne, donc j'ai suivi l'arrivée sur un écran géant. Beaucoup de supporters belges présents et tout le monde a fait oh. Donc, ils pensaient vraiment que c'était Jonathan Milan qui avait gagné. Donc, c'était vraiment très serré. Donc, elle ne s'est pas trompée tant que ça.
Merci.
Non, il est trop sympa. Il est gentil, ce Jérôme Pinot. On ne dirait pas comme ça quand on le voit. Il a l'air un peu méchant, un peu sournois.
C'est ce que 80% de la caravane du groupe, du peloton, pense. Hein, que je ne suis pas très gentil, mais finalement, tu vois.
Ouais, je pense qu'à la fin du tour, tu auras retourné le public en ta faveur. Ce
n'est pas le but, hein, tant pis pour eux.
Bon, Jérôme, beau succès de Tim Merlier, qui est un garçon évidemment qu'on connaît bien, qui derrière Pogacar est celui qui a remporté le plus de victoires depuis le début de la saison. Il en est à 11, je crois.
À 11e, exactement.
Et aujourd'hui, il a dû se la faire toute seule cette victoire. Il était un peu esselé dans le final, alors que Jonathan Milan était accompagné de beaucoup de coureurs, la formation Lidl Trek. Et il a été le plus malin. Il est resté dans l'aspiration de Milan avant de sortir vraiment à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il faut dire qu'il y avait vent de face. Hein.
Bien sûr, il y avait vent de face, mais Tim Merlier, c'est un hunter comme ça. Il n'a pas souvent eu de train. Il a toujours son meilleur ami, hein, d'ailleurs, qui est son poisson pilote Van Lerberg. Et lui, il n'a pas besoin d'un train comme Jonathan Milan. Lui, il va choisir les bonnes roues, il va sauter de roue en roue. Et ça, c'est là où il est le meilleur. Et comme tu l'as dit, il y avait vent de face. Donc, il a vraiment attendu le dernier moment pour sauter Milan. Ça a été très juste, mais très belle victoire pour Tim Merlier. Voilà, lui en avait besoin. Sa formation aussi en avait besoin. On rappelle que le premier jour, ils n'ont pas été dans la première bordure et c'était l'occasion pour Tim Merlier d'aller chercher une victoire sur le tour et le maillot jaune. Donc je pense qu'ils ont pris une petite soufflante et aujourd'hui, ils n'avaient pas trop le droit à l'erreur et il ne s'est pas raté, Tim Merlier. Et c'est bien pour la formation Soudal. On en parlera après parce que Remco Evenepoel a encore une fois tâté du bitume aujourd'hui.
Exactement. Alors qu'il avait tout bien fait dans sa journée, Remco Evenepoel, dont on vous donnera des nouvelles tout à l'heure. Ça fait du bien pour les Soudal. Je pense que Patrick Lefebvre doit être rassuré ce soir, hein, l'ancien patron de la Quick Step. Qui a dû leur passer une petite soufflante quand même. Même
je
ne
sais pas s'il
patron.
Peut encore de leur passer une soufflante, mais ils ne devaient pas être très contents et très fiers d'eux la première étape. Là, ils ont largement rétabli remis la barre en place. Je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, ils ont rétabli la situation. Ils ont une victoire d'étape, au moins une, c'est déjà pas mal. Merlier a fait preuve d'un beau sprint, mais surtout une bonne puissance. On a vu qu'il avait surtout une très grosse condition physique. Il est très fort parce que le sprint qu'il fait par rapport à un Jonathan Milan parfaitement lancé, c'est un sprint pour Milan à la base. C'est vrai qu'il a fait preuve d'une bonne puissance et surtout il va rassurer tous ses équipiers qui vont revenir avec encore un peu plus de confiance parce qu'on sent que dans cette équipe ça flottait un peu. Il y avait un manque de confiance au niveau du positionnement, même hier de Remco Evenepoel, c'était pas fameux. Donc on va redonner une spirale positive à l'équipe, ce qui est très important parce qu'il reste encore un peu de sprint. Et pour le coup, là on a vu que Merlier était en jambes.
Bien sûr, mais on le voit depuis le début de saison parce que sur l'UAE Tour, c'était vraiment la course du début de saison. Il y avait tous les sprinteurs, Milan, Philipsen, etc. Il avait déjà gagné deux étapes, Tim Merlier, et on avait déjà vu sa puissance. On avait dit d'ailleurs à l'époque qu'en termes de vitesse pure, c'était peut-être lui le plus rapide. Et ça fait longtemps qu'ils se croisent, hein, Milan et Merlier. L'an dernier, au Tour d'Italie, rappelez-vous, 3 victoires pour Milan, 3 victoires pour Tim Merlier. Tim Merlier, il a cette particularité, c'est qu'il est arrivé hyper tard sur la route, lui. Avant, c'était le cyclocross. Et il a vraiment fait sa première saison sur route complète en 2020, donc il n'est pas si vieux.
Mais parce que c'est pas un jeune sprinter,
il a
32 ans.
Il a 32 ans, il aura même 33 d'octobre, donc c'est vraiment pas un jeune sprinter. Première saison complète, on va dire, sur route. Bien sûr, avant, quand tu fais du cyclocross, tu fais un peu de course sur route. Mais dès son premier grand tour au Giro, il a gagné une étape. Il était à l'époque chez Alpecin Phoenix.
Bien sûr, parce qu'il faut le dire, il est issu de cette formation de Mathieu Van Der Poel.
Exactement.
Il était en concurrence
avec Philipsen.
Voilà, et en fait, il fait son premier grand tour, Giro, il gagne une étape et là, il lui dit, c'est bon, tu prends pas le départ, tu vas sur le tour pour aider Philipsen. Donc lui, il était un peu surpris, il va sur le tour et un jour, il devait être poisson pilote. Finalement, en cours de route, ils ont changé, il gagne l'étape. Donc lui, il s'est dit, c'est bon, je passe sprinter numéro 1 de l'équipe. Et le lendemain, ils lui ont redit, tu fais poisson pilote pour Philipsen. Il a dit, ok, croyez pas en moi, c'est temps que je parte. Et c'est un super coureur, quelle puissance il a, et la vitesse pure, 67 km/h, la vitesse max sur le sprint, vent de façon.
Ouais. Après, on était quand même... dans les rues de Dunkerque, on avait un peu plus d'abri. Mais ça, il a cette faculté à s'extraire d'une situation compliquée. C'est ça qui est très avantageux pour une équipe comme Quickstep, qui n'a pas un train comme Lidl Trek. C'est que même si Merlier, il perd ses collègues, et même si c'est un peu tortueux et un peu chaotique comme ce soir, il arrive toujours comme un chat à sortir de la situation. Et il arrive souvent de très loin. Le sprint que citait Jérôme à l'UAE Tour en début d'année, c'est juste la démonstration de... tout ce qui n'est pas normal dans un sprint, mais lui, il y arrive, et ouais, il arrive de derrière, il est trois fois plus rapide que les autres. C'est pour moi le plus rapide du peloton aujourd'hui, depuis un petit moment que ça dure. Après, les situations ne sont pas toujours idéales pour lui, parce que quand un sprint est bien lancé, très en ligne, c'est pas là où il est le plus fort. Mais quand c'est un peu chaotique, avec des enchaînements de courbes, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne voyait pas la ligne à 200 mètres de l'arrivée, bah là, il est quasiment intouchable. Alors, on peut parler comme ça, il a gagné qu'à quelques millimètres, mais il est là.
Oui, parce que Jonathan Milan n'est pas loin, mais Jonathan Milan, il est très costaud, il prend plus le vent, finalement. Et dans une étape comme ça, avec vent de face, c'est peut-être pas idéal pour Milan, qui, en revanche, dégage une impression de puissance, de force brute. Milan, c'est une bestiasse,
C'est une bestiasse, c'est sûr. Lui, il vient de la piste, alors des watts, il en développe, mais là, l'équipe Lidl Trek ont tout bien fait. Il n'a pas lancé trop tôt, hein, Milan. Il a été juste battu par plus fort que lui. Peut-être que s'il n'y avait pas eu un petit peu ce vent de face, il aurait pu remporter la victoire. Mais Merlier, c'est un malin. Hein. Il me fait penser, alors pas du tout le même gabarit, mais à Robbie McEwen à l'époque. Lui, il n'avait pas besoin de train non plus. Il sautait de roue en roue. Pareil, des fois, tu le voyais pas. Tu dis, ok, bah, McEwen, il est perdu pour le sprint. Boum, d'un coup, c'est lui qui déboulait et qui gagnait l'étape. Donc, voilà, c'est des sprinteurs. Ça, dans une équipe, comme le disait Jérôme, c'est hyper intéressant et hyper important. Pourtant, parce que t'as pas besoin de lui mettre 4 ou 5 mecs devant lui, donc de sacrifier quasiment toute une équipe pour gagner une étape sur le tour. Lui, il a besoin juste de son poisson pilote, de son meilleur pote, et c'est bon, il va au moins t'en claquer une sur tous les grands tours.
C'est pas mal. On va écouter Tim Merlier, donc vainqueur d'étape, le champion d'Europe, qui se rapproche également au classement du maillot vert, on va en parler dans un instant, mais le vainqueur, enfin celui qui portera demain le maillot vert de meilleur sprinter, ce sera Jonathan Milan, qui avait plus de points que Merlier. Merlier, en tout cas, décroche son premier succès sur les routes de ce Tour 2025. On l'écoute.
Je suis très content de nouveau gagner ici. Tour, c'est quand même le plus grand course du monde. Allez, tous les victoires, pour moi, c'est très important, mais ici, tu sens quand même la pression.
Tu sens la pression.
La pression
sur les épaules de Tim Merlier, qui est un garçon qui n'aime pas trop se mettre en avant, hein, Jérôme. Les flonflons, les paillettes, c'est pas son truc. Hein.
Non, il aime pas du tout les interviews. Hein. Il le dit, moi,
on l'a bien entendu.
J'aime pas trop parler de moi. Je préfère faire mon petit truc tranquille. Mais en même temps, des fois, il est un peu frustré quand on dit Philipsen est le sprinter le plus rapide, machin. Mais il prend pas la parole quand même pour se défendre. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer sur les courses à la pédale que c'est le plus rapide. Voilà, c'est plutôt un taiseux et un casanier, notre ami Merlier. Il dit, lui, qu'il n'est pas timide. Il dit, quand je suis en confiance, en gros, je me lâche quand je suis en confiance. J'ai peur de, et ça, on a connu ça avec Gégé aussi, il dit, j'ai peur de dire un mot qui est mal compris, qui va être sorti de son contexte et que ça me crée des problèmes.
Tu parles pas de Jérôme Pinault, là?
Non, je dis qu'il a connu le mental, on ne sait pas de l'ouvrir grand et des fois un peu trop grand, d'ailleurs, sa bouche, mais ça arrivait. Non, mais voilà, il est, et pour la petite, le petit côté gossip.
Je savais qu'il allait en venir là.
Ah, mais oui, il aurait pas nous parler de sa compagne.
Voilà. La fille de Frank Vandenbroek,
Cameron Vandenbroek. Vandenbroek, Frank, malheureusement, qui nous a quitté, qui a été un grand coureur des années noires du cyclisme et qui est parti dans des conditions un peu compliquées, évidemment. Lui, dont le tonton a aussi été le patron de l'équipe Lotto pendant
la famille Vandenbroek. C'est une famille de vélos.
Ouais.
Pour conclure avec la force et la puissance de Tim Merlier, j'invite nos auditeurs à aller voir sa victoire l'an dernier sur le Nokoreu Course.
Ouais.
Cette course qui arrive en Belgique en toute saison dans un mur en pavé. C'est un long faux plat pavé. C'est une démonstration de force.
RMC. RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Alors nous on était là, on continue à parler tranquille alors qu'on n'était plus à l'antenne. Figurez-vous qu'il y a eu un petit problème technique, il y a eu une coupure globale sur la ligne d'arrivée ici à Dunkerque. C'est pas l'orage, hein, il n'y est pour rien l'orage, il n'y a même pas d'orage. On était en train de parler de Jonathan Milan qui est donc porteur du maillot vert ce soir et qui se console d'avoir laissé échapper une deuxième victoire d'étape. On ne le reverra sans doute pas demain, peut-être... après-demain, non, après-demain,
ah non,
c'est le Renault, donc c'est le week-end. C'est donc le week-end avec l'arrivée à Laval.
Laval, dimanche Châteauroux.
Et dimanche Châteauroux, il y aura deux étapes consécutives pour les sprinteurs. On va maintenant revenir sur l'un des faits du jour, à savoir l'abandon de Jasper Philipsen, qui jusque-là vivait avec son équipe, la formation Alpecin, un début de tour de rêve. Victoire de Philipsen le premier jour, maillot jaune. Victoire de Van Der Poel le lendemain, maillot jaune. Et le troisième jour, jamais 203. Finalement, ça n'a pas marché sur ce coup-là, puisque Philipsen a donc été contraint à l'abandon après une chute sur la ligne du sprint intermédiaire situé à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Maria, un sprint un peu mouvementé, où on se bagarre beaucoup sur les sprints intermédiaires depuis le début de ce Tour de France. Philipsen qui a été gêné par Brian Cocquart, lui-même qui avait été gêné par un autre coureur. Et tout ça, ça l'a amené au sol et lourdement au sol.
Ouais, on était à Isberg, à 60 km de l'arrivée, en effet. Et là, ce sprint intermédiaire, évidemment, Jasper Philipsen, vêtu de son maillot vert, qui va pour jouer ce sprint intermédiaire. Brian Cocquart, qui était à sa droite, qui se fait pousser un petit peu sur la gauche par Jonathan Milan. Brian Cocquart, qui sa roue dévie. Jasper Philipsen se la prend et s'étale par terre, littéralement. Et voilà, tout le dos râpé, les épaules, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Alors, il est actuellement à l'hôpital, mais il a été évidemment contraint d'abandonner.
Alors, on a vu les coéquipiers de Philipsen très remontés, notamment Ricard, qui est allé s'expliquer avec Brian Cocquart. Est-ce que Brian Cocquart est fautif dans cette histoire? On va l'écouter tout à l'heure. Il est au 36e dessous, Brian. Tu le connais bien, Jérôme. Mais évidemment, tu l'as eu dans ton équipe, c'est un peu ton fils, fils spirituel dans le milieu. Vous le connaissez bien, et l'un et l'autre. C'est pas un mauvais garçon, loin de là. Il a peut-être commis une erreur, mais elle est provoquée par quelqu'un d'autre.
Il fait pas d'erreur. En tout cas, c'est une chose est sûre, c'est que c'est pas du tout le style et coutumier du fait de Brian. C'est pas un kamikaze, c'est pas un peur à rien, il a absolument jamais pris de risque dans sa carrière. Je le disais tout à l'heure dans le direct, à la radio, sur la moto derrière petit Marco. Pardon, c'est un coureur même qu'il faut demander à être un peu plus méchant dans les sprints, parce qu'il a du mal à se faire sa place. Là, c'est un mouvement de course, c'est un fait de course, malheureusement. C'est deux mouvements qui viennent bousculer un peu le sprint. Brian déchausse. Il a d'ailleurs failli, lui, tomber. Mais
c'est un miracle.
C'est un miracle qu'il ne soit pas au sol. Et puis, Philipsen est là et dans la roue de Brian et va au sol. Mais dans l'attitude, il n'y a aucune faute, ni des uns, ni des autres, pour avoir revu les images. Personne ne dévie sa trajectoire, ça frotte, et c'est un sprint, ça frotte, et ça tombe. Pourquoi? Parce que peut-être, depuis lors, il n'y avait pas eu de mouvement de course, ça avait roulé tranquille, et à ce petit jeu-là, à chaque fois, on arrive massif. Jérôme l'a assez répété pendant le direct, c'est les moments où dans les courses et dans les étapes comme celle-ci, c'est souvent le chaos. Et
tu perds un peu la concentration parce que tu n'es pas au taquet pendant toute l'étape, c'est ça?
C'est même pas vraiment ça. Oui, ça peut arriver dans le peloton quand c'est un peu endormi, il y a un coup de frein, t'es pas trop concentré et puis tu vas toucher une roue. Mais c'est plus que comme ça roule pas, tout le monde est frais dans le final. Et en plus, il y a vent de face, tout le monde pense être capable de remonter le leader, le sprinter, etc. Alors que si ça avait roulé à bloc toute la journée, il y en a qui auraient plus été en mesure d'aider leur équipe. Donc ça frotte beaucoup moins quand ça roule vite. Là, pour revenir sur le sprint de Brian, en fait, ça part de, et pareil, c'est pas lui le fautif, mais ça part de Milan qui se décale pour lancer son sprint au sprint intermédiaire. Et Brian, il est déjà le vélo au niveau de la roue arrière de Milan. D'ailleurs, même lui, c'est pas trop ce qui est arrivé.
Non, il
sait pas s'il touche ou pas. Et du coup, il se décale. Sauf qu'à sa droite, il y a Rex d'Intermarché et il vient le toucher. Ça déchausse et voilà, Philipsen est derrière. C'est vraiment un fait de course quand je vois la vague de haine et de dégueulis, pardon, qu'il reçoit sur les réseaux sociaux. Faut vraiment arrêter de suivre le vélo ou faut rien connaître au vélo pour dire que Brian Cocquart est fautif là-dessus. Faut arrêter. Bien sûr qu'il a pas voulu mettre Philipsen par terre, c'est n'importe quoi ça.
Évidemment. On va l'écouter, Brian Cocquart, très ému, donc derrière la ligne d'arrivée, interrogé par nos reporters. Il était au bord des larmes, il avait les yeux rougis. Brian Cocquart.
Ah, je m'attendais à ce que vous soyez tous là. Voilà, et puis je voulais pas vraiment faire le sprint final et je me suis remobilisé. Nouvelle chute, mais j'ai eu mal un peu partout. Des abrasions, mais on verra. Que faire, abandonner le maillot vert, ça fait pas plaisir. J'ai regardé un petit peu les images. Pour moi, en fait, sur le moment, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai l'impression que Milan sans son sprint, peut-être que Marou avant touche son dérailleur. C'était pas mon intention de créer une chute. Je voulais pas prendre de risque. Moi, j'étais juste dans la roue à Milan et je pense que quand il a lancé, j'ai même pas l'impression d'avoir touché quelque chose.
Et on a l'information sur on vient de l'avoir à l'instant, l'information sur la blessure de Jasper Philipsen. Fracture déplacée de la clavicule droite, une intervention chirurgicale sera certainement nécessaire. Au moins une côte cassée, peut-être deux. Il sera transféré dès que possible à l'hôpital où il subira une intervention chirurgicale.
La clavicule, la blessure traditionnelle du coureur cycliste. Il est parti tête en avant. Il n'a pas touché la tête la première, mais c'est l'épaule qui a pris très
On a tout de suite vu, hein, dès que le coureur. Alors lui, il n'a pas mis la main sur la clavicule, mais il gardait son coude plié, la main près du torse, ça c'est jamais bon signe pour la clavicule. Entre guillemets, si c'est que ça, les côtes ça prend du temps, la clavicule, une opération ça se répare, on revient assez vite sur le vélo, il s'en sort pas trop mal parce qu'à l'allure où il est tombé, à la vitesse où il est tombé, il aurait pu se faire encore beaucoup plus mal que ça.
Il a frôlé le traumatisme, hein, parce que la tête est allée très vite au sol.
Il a
certainement dû frotter le visage au sol. Donc oui, c'est sûr que quand on a le diagnostic et si c'est seulement la clavicule, il va falloir attendre quelques heures sûrement pour des examens un peu plus poussés. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment la fracture de l'épaule. Et là, c'est plus embêtant. C'est un moindre mal, on va dire, pour Philipsen, même si une chute comme ça, ça marque dans sa chair, dans ses os, mais aussi dans la tête. Hein, parce
c'est,
que,
ce qui est
à
dingue,
force d'aller au sol, on est fini par être marqué.
Ce qui est dingue dans ce sport, c'est qu'il n'y a pas une journée sur la route du Tour sans que le soir, on soit obligé de faire un bulletin médical pour annoncer les blessures des uns et des autres. C'est aujourd'hui le sport le plus dangereux qui soit sur Terre.
Bien sûr.
C'est plus dangereux qu'une course de ski, c'est plus dangereux qu'une course de Formule 1, de moto. Les motards sont un peu plus protégés. Mais tous les jours, sur les courses cyclistes, il y a des fractures, il y a des os qui se cassent. C'est dingue.
Le problème, c'est que tu n'as aucune protection. Les vélos sont de plus en plus performants. L'entraînement est de plus en plus performant. La nutrition est de plus en plus performante. Donc tout va plus vite. Les vitesse moyenne, on le voit, on en parle assez souvent, ça va de plus en plus vite, mais les protections, elles évoluent pas. T'as toujours ton casque, ton petit maillot en lycra et ton petit cuissard en lycra. Quand tu tombes, il n'y a rien du tout qui te protège. Et quand tu tombes à 60 à l'heure, peut-être comme ils étaient lors du sprint intermédiaire, bah si tu tombes mal, c'est sûr que ça casse. Ça casse tout de suite. Parce que bon, si tu tombes, t'es pluché, alors c'est chiant pour la douche et pour la récupération, etc. Mais tu peux repartir. Mais quand tu tapes dur, qu'est-ce que t'as qui te protège? Imaginez avant, à l'époque, je sais pas si t'as connu Jérôme, mais quand il n'y avait même pas les casques.
J'ai connu un Tour de France. J'ai connu un Tour de France sans casque en 2002.
Sans casque, ça me paraît dingue parce qu'ils allaient pas, ils allaient moins vite parce que le matériel permettait pas d'aller aussi vite. Mais j'ai toujours connu le casque, donc c'est comme la ceinture de sécurité en voiture. Moi, je peux pas faire 200 mètres sans mettre un casque de vélo parce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Je me demande comment ils faisaient à l'époque. Mais c'est vrai que niveau sécurité, est-ce qu'il y a pas encore des choses à creuser? Un temps, l'équipe pique-nique actuelle avait un cuissard qui empêchait un peu de brûler la peau quand il tombait, mais ça a pas été plus loin. On parle de ces airbags à mettre autour du cou qui se déclencheraient en cas d'impact. Mais de nouveau, là, tu vas taper dans moins d'aéro, plus de poids, donc tu vas à contre-courant des évolutions en termes de performance.
Des maillots un peu plus rembourrés, des cuissards un peu plus rembourrés, voilà, mais là, évidemment, après, c'est contre la performance.
Il va falloir choisir entre la sécurité et la performance.
Mais c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Formule 1. Aujourd'hui, les Formule 1 vont moins vite que celles d'il y a 20 ou 30 ans parce qu'on a décidé de mettre l'accent sur la sécurité, alors qu'on ne fait pas la même chose dans le vélo. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus dangereux.
On y vient sur une des dernières courses de l'année en Chine. Voilà, Ganshi vont faire des tests de limitation de braquet, donc ils pourront plus mettre des grands plateaux de 58, 57, etc. pour voir si ça joue sur la vitesse moyenne, sur les chutes, sur tout ça. Mais oui, il va falloir vraiment se pencher un peu sur le problème de la sécurité.
Après, pour en revenir sur les fractures, les clavettes, comme on dit, sur la clavicule. Dans les années 80, ça allait moins vite. Il y avait du 50-14 et puis ça pétait les clavettes. C'est l'os qui casse le plus parce que c'est par réflexe, le coureur quand il tombe, il va chercher généralement le point opposé de son bras fort et il vient essayer d'amortir sa chute à chaque fois. Moi, j'ai deux fractures de la clavicule, les deux fois de la gauche, parce que tu vas chercher l'appui et essayer de d'enrouler ta chute. C'est un réflexe
quelque part. Sauver ta tête, donc tu vas mettre ton épaule en avant.
Ouais, et donc c'est l'os qui casse tout de suite avec le scaphoïde, parce que quand on n'y arrive pas à rouler, on va mettre les mains. Donc ça, c'est historique, c'est comme ça, le vélo est...
Mais par contre, bien sûr.
Je te confirme, Christophe, non, mais... le vélo est un sport à risque. Et ça, on l'a encore vu aujourd'hui à trois reprises.
Ouais. Oui, parce que ça n'a pas été la seule chute. On va y revenir dans un instant. On va faire le bilan médical avec Marion dans un instant. Juste un petit mot. On va écouter quand même le maillot jaune. Mathieu Van Der Poel, coéquipier de Jasper Philipsen, qui lui s'en est sorti sans problème aujourd'hui, mais qui a évidemment un mot pour son équipier. Jasper Philipsen qui quitte donc la route du Tour ce soir à Dunkerque. Qu'on l'écoute.
C'était si bien commencé pour nous et de perdre Jasper aujourd'hui, ça fait mal quand même. Je l'ai vu par terre et je voyais que c'était pas bien. Ouais, j'espère surtout qu'il a pas trop mal à ce moment, mais je pense qu'il doit être surtout fier de sa première étape et du maillot jaune. Caden, il a vraiment aussi un sprint pour gagner. Aujourd'hui, je pense que c'était un peu difficile. On a essayé, mais je sentais que l'équipe était un peu triste et c'était difficile de prendre le focus 100% pour faire le sprint.
Voilà, parce que ils ont un sprinteur en réserve de la République qui s'appelle
Caden Groves.
Mais comme l'expliquait Mathieu, évidemment, quand tu vois ton leader pour le sprint se gameler comme ça,
c'est dur derrière, de se remobiliser. Ouais, hein, c'est compliqué, surtout que le final, on en parlera, mais ça a été chaotique aussi. Donc ils ont bien essayé, hein, Mathieu Van Der Poel le premier, de replacer Caden Groves pour lui donner une chance de remporter cette étape. Ouais, c'était compliqué. Je pense que mentalement, ils ont pris un bon coup sur le casque quand ils ont déjà vu Philipsen par terre et qu'ils ont ensuite appris son abandon. Voilà, ça va être compliqué, va falloir qu'il digère un petit peu et le meilleur moyen de digérer, ça serait que Mathieu Van Der Poel gagne l'étape de demain.
Ah bah pourquoi pas, ça c'est dans ses cordes.
C'est dans ses cordes.
Philipsen out, Brian Cocard lui le moral dans les chaussettes puisqu'il a donc indirectement fait chuter Jasper Philipsen. Et il y a eu d'autres victimes dans la journée, Maria, puisque ça c'était la première chute, mais que dans l'emballage final, dans les derniers kilomètres, lorsque les équipes de sprinteurs se sont mises en place, là aussi on a assisté à deux chutes impressionnantes, notamment la dernière dans le dernier virage à quelques mètres de la ligne d'arrivée.
Ouais, dans le dernier virage, j'ai eu ça. D'avant aussi qui a arrêté tout le peloton, où Remco Evenepoel notamment est tombé. Bon, quelques petites infos, mais apparemment rien de bien grave pour Remco Evenepoel. Il était juste un petit peu éraflé, mais rien de très très grave. Non, la plus grosse souille en effet, Christophe, c'est celle juste dans le virage avant l'arrivée, à 200 mètres de l'arrivée justement. Emilien Jeannière notamment de Total Energy qui a très très lourdement chuté, qui s'est pris la barrière finalement, qui a d'ailleurs perdu quelques dents dans la bataille. Il a quand même franchi la ligne d'arrivée 8 minutes 45 après Tim Merlier, mais il s'est relevé, ouais, mais dans un sale état. Donc il est parti faire une radio pour voir un petit peu l'étendue des dégâts.
Les sprinteurs, là, il y a eu du mal, hein, parce que dans la chute à un peu moins de 5 km, il y a Jordi Meus qui était un des favoris, ouais, qui a été râpé de la tête aux pieds. Et dans la chute avec Jeannière, il y a Delis, mais qui n'a pas dû se faire trop mal. Penouette, on l'a vu, notre sprinteur français, passer la ligne d'arrivée à pied.
Alors, il n'avait pas l'air trop touché.
Il n'avait pas l'air trop touché.
Et même son.
Ouais, pas trop râpé, mais.
Son vélo,
voilà, le vélo était cassé, mais voilà, c'est malheureux. Ça fait partie du vélo et les sprinteurs sont obligés de prendre des risques pour essayer de gagner une étape sur le Tour de France.
Voilà, triste fin pour Philipsen et pour d'autres coureurs qui ont donc dû abandonner ce soir la route du Tour de France dès la troisième étape. Changement donc de maillot vert, on en parlait il y a quelques minutes avec désormais Jonathan Milan qui porte le maillot du meilleur sprinteur du Tour. On va également assister à un changement de meilleur grimpeur.
Ah oui.
Ah là, la bagarre a été incroyable aujourd'hui entre Tadej Pogacar qui était vêtu de poids rouge de son casque jusqu'à ses chaussettes.
T'as pas plu à Jérôme Coppel d'ailleurs, j'ai entendu
ça. Non, non, non.
Je tiens à ce débat là. Moi, on fera un sondage sur les réseaux. La brigade du style, c'est au moins 2 ans de prison, ça.
Franchement, de base, un maillot à pois, c'est pas très très beau.
Cuissard noir, maillot à pois. Voilà, ça c'est la classe.
Alors voilà. Mais t'es dans le classicisme le plus absolu.
Non, moi, je suis dans la classe. Jamais... Toi, t'es pas dans la mode, t'es pas dans la classe, Christophe. On voit bien. Le short, il a tout délavé, il est pas vraiment à ta taille. Voilà, toi, t'aurais mis un cuissard à pois. À pois rouge si t'avais été meilleur grimpeur.
Mais je rêve, regarde comme il est habillé. Non, mais on dirait un cintre déjà.
Ah ouais, mais ça, tu parles de ma corpulence là.
En 2010, moi, j'avais refusé le cuissard à pois.
Ah là, un homme de goût.
J'avais eu le choix entre le cuissard à pois ou le cuissard noir et rouge pour rappeler la couleur du maillot. Et évidemment, j'ai.
Du coup, tu te l'as fait piquer par Shortix.
Cuissard noir. Lui, il était à full poids, lui.
Ah, il était à full poids.
Ouais.
Bon. Alors, Pogacar a abandonné. A abandonné.
Il n'a pas abandonné. Est-ce que les gens qui arrivent là maintenant, ils se disent
ça y est. Est-ce que c'est Wellens qui fait un cadeau à Poggi, justement, en récupérant le maillot à poids, de manière à ce que Poggi n'ait pas à faire le protocole et donc toutes les interviews qu'il déteste faire tous les soirs?
Bah, les deux, hein. Je pense que tout le monde est content. Chez UAE, Tim Wellens a participé au protocole. Il aura son maillot à poids demain. Il a quand même moins l'occasion de monter sur le podium, sur un des podiums du Tour de France que Pogacar. Et Pogacar, comme tu as dit, ça lui aura évité l'autocol après la ligne d'arrivée. Voilà, c'est tout bénef pour UAE.
Ouais, c'est clair, la situation elle était assez simple puisque ils avaient a priori chez UAE fait plus vite les calculs que vous messieurs dames dans ce studio, parce que vous avez mis quand même longtemps à trouver qui allait porter ce maillot à poids. J'ai trouvé en tout cas, et donc Wellens lui est allé au protocole. Je pense que c'est stratégique quand même, c'est pour éviter.
C'est-à-dire qu'ils avaient à deux Tadej points Pogacar. Chacun.
Non, mais à trois c'est pas évident, à trois de savoir de lire un règlement et de l'analyser.
Le règlement, c'est l'affaire de Jérôme Coppel, mais non, tu sais, il a du mal à dire ça.
On en a plus de règlement.
On a mis un peu de temps à comprendre qu'il était passé deuxième sur la côte du Pogacar sur la côte du Haut-Pichot. C'est pas qui nous a retardé.
Et je compatis parce que pour moi, c'était celui qui passait en tête du classement de la montagne le mieux. La plus difficile.
Ouais, ils en avaient un chacun.
Parce que la deuxième côte d'hier était aussi en troisième catégorie, ça je le savais pas.
D'accord.
Mais en tout cas, ça c'est très stratégique, on en revient là du coup très sérieux. C'est une décision qui a été prise hier à l'hôtel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de course demain, Tim, tu fais les points, comme ça Tadej n'a plus à aller au protocole. C'est une certitude. C'est pas comme ça, ils n'ont pas décidé ça comme ça pendant la course.
Hein. Alors, Tim Wellens qui aurait pu bénéficier du vote de Maria Azé, qui, on le rappelle, fait partie du jury de la combativité, mais elle n'a pas voulu décerner de points aujourd'hui.
Elle est dure,
mais pourquoi t'es si dure? Pourquoi
a posé la question, personne n'a répondu parce que personne ne savait pour qui voter, et donc ils nous ont proposé de voter pour Tim Wellens, sauf que Tim Wellens, finalement, c'est le seul à sortir aujourd'hui. On va pas dire que derrière
il est donné beaucoup de siens.
Donc bon, donner le prix de la combativité à finalement quelqu'un qui n'a pas combattu, c'est quand même un peu dommage. Et donc on a décidé, on nous a autorisé à ne pas élire le prix de la combativité. Si
c'est
on rare,
justifiait, hein, c'est très rare. Souvent, ouais. Je crois que c'est jamais arrivé.
Mais franchement, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal.
Il n'y a pas de combatif. On va pas le donner. Les mecs n'ont pas voulu combattre aujourd'hui. Bah tant pis pour vous.
Ils ont donné le prix à un bénévole sur le podium.
Ah oui. C'est combien combien tu prends? Tu sais pas, Maria, combien c'est on prend dans le classement de la course? C'est l'affaire de Jérôme Coppel.
Je suis dessus.
On va parler de quelques milliers d'euros, mais moins de 5000 pour moi. Hein. C'est pas des prix de. On n'est pas dans le tennis ou dans le football. Hein.
Ah bah non,
relatif. À l'étape, c'est moins que ça quand même.
Ah bah oui, quand même.
Oui, sur 1000, je dirais 1000 euros.
Oui, je suis même pas sûr.
On ne décerne plus le prix orange?
Le prix citron et orange, le garçon le plus agréable,
et le moins agréable.
Toi, t'as eu quoi, le prix citron, non?
Ah non.
T'as rien eu, toi?
Ni, non. Le kiwi, peut-être. Non, parce qu'en ce moment, il y en a un qui met des points pour le prix citron, c'est Ricard, quand même. Parce que hier, il s'est entrepris avec un coureur qui voulait pas venir rouler avec lui, mais qui replaçait seulement son coureur. Il a mis une soufflante à Brian Cocard après la ligne, on peut comprendre. Et surtout, Ricard, il a fait quelque chose au départ qui, moi, me déplaît complet. C'est qu'il a été le premier attaquant de la journée. Alors que c'est absolument pas son rôle d'attaquer, il est coéquipier de Philipsen. C'était un peu pour dire, il n'y aura pas d'échappée, moi j'y vais, je rigole. Et ça c'est détestable. Ouais. Ça, c'est une attitude détestable.
Il y a Mohoric qui l'a rattrapé un moment.
Oui, mais Mohoric, il est parti pour... Lui, il s'est dit, il y en a un devant, on y va. Mais Ricard, il va sans conviction, il sait qu'il va
pour
revenir.
Pour dire aux autres coureurs, ouais, c'est pas la peine de sortir aujourd'hui.
Je vois le
mal partout un peu, non?
Ah non, non.
Je suis d'accord, moi aussi, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment
surtout, il a engueulé ton copain.
Non, mais Ricard, de toute façon, ça fait quelques semaines et quelques années déjà. Il est... Alors, j'ai... C'est peut-être la peur parce qu'il est très grand. mais il est détestable.
C'est 2000 euros le prix de la combativité par jour.
Par jour? Ouais, ben voilà, ben voilà. Tim Mollens, s'il avait fait un kilomètre de plus, il aurait pris 2000 euros. Mais tant pis pour lui. Bon,
non, mais il n'était pas combatif, Wellen. C'est...
Non, mais bon.
Bah, s'il avait continué un peu. Et
200 mètres de plus, Maria lui filait les 2000.
Pas 200 mètres, mais.
Ouais, un kilomètre de plus. Voilà donc pour le maillot à poids. Voilà donc pour le combatif. Parlons du maillot blanc, s'il vous plaît. Hein, parce que le maillot blanc, il est porté par un Français quand même. Notre ami Kevin Vauquelin, qui conserve sa quatrième place au classement général et qui reste donc meilleur jeune de ce Tour de France. Un garçon qui a changé de dimension depuis son succès l'an dernier, son magnifique Tour de France, sa victoire, on s'en souvient, en Italie. Et puis le Tour de Suisse également, où il a terminé deuxième. Aujourd'hui, ben, il est respecté par ses pairs. On avait tout à l'heure dans notre camion Emmanuel Hubert, le manager général de la formation Arkéa, qui est évidemment ravi d'avoir un tel coureur dans son équipe. Il nous en a dressé le portrait. On écoute Emmanuel Hubert.
Comme il aime à dire, on m'appelle plus le petit d'Arkéa, on m'appelle Vauquelin ou Kevin. Deux fois deuxième de la Flèche Wallonne, à chaque fois, bon, il est tombé sur deux hommes très très forts. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui est punchy, on l'a encore vu hier. Peut-être qu'il a peut-être attaqué deux ou trois fois de plus qu'il aurait fallu, mais je l'encourage. Et comme je dis toujours, et comme nous disaient nos anciens directeurs sportifs, c'est plus facile de freiner un cheval que de le faire accélérer. Et il a un gros moteur, il a le physique pour être champion, et en plus le mental, et il s'affirme de jour en jour, je trouve.
Il s'affirme de jour en jour, nous dit Manu Hubert, donc en parlant de Kevin Vauquelin, quatrième au classement général, meilleur jeune. Est-ce que c'est un classement qu'il peut espérer décrocher à la fin du Tour de France? On rappelle qu'il y a quand même du beau monde dans cette catégorie des jeunes, notamment Remco Evenepoel,
Florian Lipovitz
également. Donc voilà, c'est supérieur, évidemment.
Bah, sur le papier, Evenepoel, c'est supérieur. Oui. Après, attention, Remco Evenepoel, il n'a pas pris le Tour de France dans le bon sens, donc on ne sait jamais avec lui. Après, Kevin Vauquelin roule très bien. On a encore des petites incertitudes dans la haute montagne et l'enchaînement des étapes difficiles en haute montagne. Mais oui, bien sûr que ces deux adversaires principaux, allez, on va même en mettre trois, parce que Skelmoseux est aussi encore dans le classement des jeunes. Donc Skelmoseux, Evenepoel, Lipovitz, éventuellement Carlos Rodriguez, d'Ineos Grenadier. Voilà, là, on a quand même des coureurs qui ont déjà plus ou moins fait leur preuve dans les courses de trois semaines. On a Remco Evenepoel, Lipovitz, ça va aussi très bien en chrono, tout comme Kevin Vauquelin, mais ils ont donné un peu plus de garanties sur les étapes de montagne.
Avec le rajeunissement des stars du cyclisme, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi réduire la tranche d'âge des vainqueurs du classement?
C'est une idée, parce que c'est vrai que sinon, le vainqueur du Tour est maillot blanc quasiment à chaque fois.
Pogacar pendant longtemps.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette tranche d'âge-là, elle correspond quand même à un jeune coureur, même si aujourd'hui, il performe de plus en plus jeune. Donc, non, pas
changer. Ça va jusqu'à 25 ans, c'est ça, hein?
Moins de 25.
Ouais, ouais, on pourrait la réduire au moins à 23.
Chez les espoirs, c'est ça. Quand on est dans les catégories jeunes, chez la catégorie espoir, c'est moins de 23.
Et comme maintenant, les meilleurs, les plus grands talents, ils passent pas par cette catégorie espoir, hein, comme Paul Sexas, s'ils sortent des juniors, ils passent tout de suite chez les pros, bah, ça permettrait d'avoir un classement mondial des moins de 23 ans, des pépites, espoirs, quoi, ouais, finalement, des pépites. Donc, ouais, ce serait bien de raccourcir ce classement aux moins de 23 ans.
Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que si Kevin Vauquelin finit en blanc à Paris, c'est qu'il va nous faire un top 10, parce que le maillot blanc.
L'année dernière, il est 3e du Tour de France, maillot blanc. Et l'année d'avant, il est maillot jaune.
Si c'est Remco Evenepoel, oui. Podium. Après, je vois pas Lipovitz sur le podium, sauf si Remco est tombé aujourd'hui.
Lipovitz, ça vaut, ça dépendra aussi de Roglic, mais ça vaut entre 5 et 8 sur ce tour. Lipovitz, Carlos Rodriguez. Il a pris deux tickets, mais ça peut être par là. Skelmoseux, il a toujours un jour ou deux où il prend un petit tir. Donc oui, ça serait top 10. Après, au départ du tour, Kevin Vauquelin a dit qu'il visait pas du tout le classement général, mais vu les jambes qu'il a, vu comment il marche, pourquoi pas.
Alors, on va parler dans un instant de l'étape de demain, puisqu'on va entrer en plus dans sa région. On arrive en Normandie demain. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on a de la Normandie. Il est plus dans les étapes de après Caen, je crois.
Et dans l'Orne.
Dans l'Orne. Malgré tout, on va l'entendre. Il est ravi et très fier de rentrer dans sa région natale avec le maillot blanc de meilleur jeune de ce Tour de France. On l'écoute.
Ce serait juste génial, voilà, un maillot distinctif, n'importe lequel, hein, même un maillot à poids, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable sur le Tour de France. Il faut vraiment en profiter. Donc voilà. Après, comme je dis, on a avec l'équipe l'ambition de regagner une étape, parce qu'on sait que les émotions ça procure grâce à l'année passée. Donc on a vraiment envie d'accrocher vraiment une victoire.
Alors attention, attention s'il vous plaît, nous avons fait une erreur et il y a quand même quelqu'un qui contrôle tout ça, notre Normand à nous, Eric Salio, qui nous dit que Vire n'est pas dans l'Orne mais dans le Calvados.
Non, mais je dis que il me semble que Kevin Vauclin est originaire de l'Orne.
Ah, il est originaire de l'Orne. Maria, c'est ça. Bon, on va s'enseigner en tous les cas. Il est pas de Bayeux, me semble-t-il.
Aucune idée.
Je sais pas. Bref.
Il est né à Bayeux.
Il est né à Bayeux, c'est ça.
Alors c'est le Calvados.
Alors c'est le Calvados. Voilà. Donc Eric Salio avait raison. Kevin Vauclin, donc sur l'étape de demain et les étapes à venir, bon, sur le contre-la-montre, on l'attendra aussi, hein, parce que c'est un redoutable. Bah là, il a terminé deuxième des championnats de France du chrono.
Exactement. Jusqu'à quasiment samedi, il peut quasiment s'exprimer tous les jours. Il y a Rouen, il y a le chrono où il va pas, sûrement pas battre Remco Evenepoel, mais il va pouvoir se faire plaisir et faire un très bon chrono.
Mur de Bretagne,
D'autant que Ghana et Bisseguer ne sont pas là, bien donc il y a du monde en moins, hein, ouais, pour les rouleurs.
Il va quand même retomber Remco, Pogacar, Vingegaard, etc. Mais top 5, c'est de loin pas infaisable pour Kevin Vauclin. Et là, il a vraiment, là, jusqu'à samedi, il a sa carte à jouer quasiment tous les jours, Kevin Vauclin. Donc c'est parfait. Et en plus, tu l'as dit, il arrive sur ses terres, il sera sûr. Motivé.
Kevin Vauclin, dont on ne sait pas encore l'avenir, on sait que son contrat s'achève à la fin de la saison avec la formation Arkéa. Emmanuel Hubert, tout à l'heure, dans le
premier. Si on lit un peu entre les lignes de ce qu'a dit Manu, on risque quand même de voir Kevin Vauclin sous d'autres cieux l'an prochain.
Oui, d'autant qu'Emmanuel Hubert n'est pas du tout sûr de pouvoir continuer à faire vivre l'équipe.
Les coureurs, on sait qu'officiellement, la période des transferts, c'est à partir du 1er août.
Officiellement.
À notre époque, ça se négociait encore pendant le Tour de France. Depuis 4-5 ans, c'est terminé. Les contrats sont faits bien avant le Tour de France et encore plus pour les gros coureurs comme Kevin Vauclin, parce que c'est devenu un grand coureur que toutes les équipes s'arrachent. Donc, je pense que son avenir est déjà scellé depuis un petit moment à Kevin Vauclin.
Là, il plane quand même une certaine incertitude, Jérôme, et ça va peut-être décaler le mercato pour avoir été au cœur de l'action et du réacteur à une époque où j'étais manager. Là, il y a deux équipes qui sont dans la capacité de signer 2 ans. Puisque Emmanuel Hubert, pour l'instant, et je parle que de la France, ne peut pas signer les coureurs puisqu'il n'a pas les partenaires. Et Jean-René Bernadeau, il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas renégocier de contrat de 2 ans pour un jeune coureur. À partir de là, ça met un peu le bazar, entre guillemets, dans le marché. Et souvent, les négociations se font très tôt en saison. Mais la vraie signature peut se faire bien après. Parce que, avec l'arrêt de telle équipe, les opportunités du marché qui vont se présenter, notamment des prix à la baisse pour certains très bons coureurs. Il y a beaucoup d'équipes qui attendent un maximum, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Ce n'est pas le coureur qui choisit. Ce n'est pas l'agent qui choisit. C'est le manager qui choisit. Et son budget, souvent, il n'est pas fixé au mois de juillet. Ça, beaucoup de gens dans le milieu, et notamment les agents, et notamment le grand public, et parfois mal orienté par une certaine presse, pensent que c'est facile. Et pensent que ça se fait parce qu'on a décidé que... Mais c'est le sponsor qui choisit de mettre au bout ou pas. Et ça, la négociation, pour prendre un coureur comme Kevin Vauclin, il faut sortir un petit bonus extra quand même, ou alors avoir un gros coureur qui s'en va. Donc il faudra quand même peut-être être vigilant là-dessus. Sûrement Kevin Vauclin a donné son accord à une équipe, peut-être dans son cas, mais le marché n'est encore pas très ouvert.
Que dit Radio Ploton sur la possibilité de nouvelle équipe de Kevin Vauclin ?
Il y en a beaucoup pour Kevin Vauclin. Pour l'instant, on a parlé de Decathlon à G2R, on a parlé d'Ineos.
Ineos
ressort beaucoup. Maintenant, à voir si c'est ça ou pas. Mmh. Ineos sont quand même très actifs. Hein. Depuis quelques années, ça marche pas fort quand même, l'équipe de ce standing-là. Ils sont en train de renouveler pas mal de trucs. Et voilà, Kevin Vauclin pourrait faire partie du projet Ineos.
Depuis l'an dernier, déjà, avant même que le Tour de France commence, pour avoir quelques connaissances et amis dans cette équipe, Kevin Vauclin était déjà en négociation avec Ineos. Donc, a priori, c'est quand même sa destination favorite.
Très bien. Eh bien, nous verrons ça dans quelques jours, puisque...
Mais jusque-là, il pourra gagner une étape du Tour avec les couleurs de Arkéa B&B Hotel.
Couleur bretonne.
Qui va peut-être permettre à Manu de vendre son projet et de vendre son savoir-faire.
C'est magnifique. Il était avec nous tout à l'heure. Bon, il est évidemment toujours focus sur cette recherche de sponsors. Mais il nous le disait, là, à partir pendant le Tour de France, c'est difficile. Et après le Tour de France, c'est encore plus difficile de trouver les sponsors. Ouais. C'est pas la meilleure période. C'est plutôt avant le Tour. Encore que si tu performes sur le Tour, peut-être tu peux arriver à convaincre.
Non, tu finalises.
Tu finalises.
Pour avoir connu cette période-là, même avant que certains me fassent des promesses sans les tenir, tu as déjà beaucoup, beaucoup avancé dans ton projet, tu as déjà travaillé en amont. Ce que je souhaite et ce que j'aimerais, et j'aurais voulu lui poser la question, c'est qu'il travaille seul et qu'il fait confiance uniquement à un
cercle. Alors, il a une agence qui travaille avec lui. Hein.
Et ça, le problème, c'est que les agences, on est souvent un produit d'appel. C'est-à-dire qu'il y a ça à 20 millions et puis sinon, il y a ça à 30. Mais ça, c'est mieux. Tu vois comment ça se passe, c'est devenu un marché, c'est devenu quasiment un produit d'appel. Et l'agence qui a Emmanuel Hubert sous le bras, elle n'a pas le même timing humain et de stress et de difficulté que Manu Hubert lui-même. Parce que Manu ne doit plus beaucoup dormir, doit être très stressé. L'agence, elle sait que si elle ne vend pas l'équipe de Manu, elle va trouver autre chose.
Je l'ai trouvé quand même malgré tout assez serein.
Tant mieux. Il faut de la sérénité dans ces moments-là, parce que sinon, on dit oui à tout le monde, on va partout. On perd du temps sur des vrais projets, alors qu'on perd du temps sur des faux projets, parce que le plaisir d'un tel qui n'a pas les moyens, mais quand même, il va manger avec, donc il passe un repas. Et c'est une journée de plus de perdu, parce que c'est un vrai compte à rebours. Ouais. Le jour où tu perds ton temps, c'est une journée de perdu pour en trouver un nouveau.
C'est ce que j'allais dire. Et plus le temps avance, bien sûr, plus les meilleurs coureurs vont bien se signer ailleurs. Et là, qu'est-ce que tu vends? Tu dis, ok, bah moi sous contrat, j'ai eux, j'ai plus qu'eux. Oui, mais avec eux, est-ce qu'on fera le Tour de France? Pas sûr. Ah oui, bah si on fait pas le Tour de France, je viens pas. Ou je mets moins d'argent. Mais ce qu'il disait, est-ce que des sponsors, c'est déjà beaucoup d'argent de mettre 6, 7, 8 millions d'euros si on fait pas le Tour de France? Ouais. Donc en fait, plus t'avances, plus c'est compliqué de... Alors oui, t'avais dit, il y a eu un peu la jurisprudence Bernaudot qui s'est sauvé au dernier moment avec Europcar parce que Thomas Vauclair a bien voulu attendre jusqu'au dernier moment et que ça a fonctionné, mais ça fonctionne pas à chaque fois. Alors on souhaite à Manu de réussir et on espère bien sûr que ça se fasse avant la fin du tour.
19h52, vous êtes sur RMC, c'est l'After Tour avec Jérôme Coppel, avec Jérôme Pinault, avec Maria Azé. On va s'intéresser à l'étape de demain en espérant évidemment que cette étape soit plus passionnante que celle d'aujourd'hui. Ah, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, monsieur Coppel. Parlez-nous de cette étape et notamment de ce final à l'arrivée à Rouen. À Rouen, on sait, il y a des côtes partout entre la Seine et les coteaux qui la dominent. Il y a de quoi faire. Chez Jérôme. Il est né là-bas.
Il est né à Rouen.
Il est né
à Mont-Saint-Aignan.
Comme Jacques Anquetil aussi. Tu étais du même pays que Jacques Anquetil.
Exactement.
On va passer la côte Jacques Anquetil.
Et Mathis Louvel, de l'équipe Israël, première tech, est né à Mont-Saint-Aignan. Oui, messieurs.
Tu veux continuer ou je peux présenter l'étape, Jérôme? Non, parce que je pense que nos auditeurs sont un peu plus intéressés par l'étape que par savoir
mon lieu de naissance.
Qui est né où. Enfin, toi, je peux y aller?
Vas-y, il nous reste deux minutes, les gars.
Prends ton temps, assez vallonné, quand même, plus de 2000 mètres de dénivelé sur cette étape. Elle va ressembler un peu à l'étape de dimanche, gagnée par Mathieu Van Der Poel. Toutes les difficultés sont à la fin de l'étape. Il y aura 4 difficultés. 3 de 4e catégorie et 2 de 3e catégorie. Et surtout, on a dit la première côte, la côte Jacques Anquetil, donc 3,6 km à 3,6%. Mais surtout, la dernière côte, la rampe Saint-Hilaire, 800 mètres à 11%. Le sommet est qu'à 5 km de l'arrivée. Donc là, un Tadej Pogacar, par exemple, à Mathieu Van Der Poel, là, on pourrait voir une attaque parce qu'après, ça descend, ça remonte vers la ligne d'arrivée qui sera cette fois à plat. Mais là, il y a vraiment de quoi faire des écarts sur ce final. Très beau final, très accidenté. On a quand même, dans les 27 derniers kilomètres, 4 difficultés. C'est jamais très long, mais c'est quand même assez raide. Ça ressemble vraiment à l'étape d'hier, l'étape de dimanche.
Bon, on va se régaler demain.
Il n'y aura pas photo finish entre deux sprinteurs demain, ça c'est sûr. Peut-être entre deux punchers, mais dans ce petit jeu des courses à étapes à punch, nous ça nous donne le sourire. Pourquoi ? Parce que on sait que maintenant on a 2, 3. Voire 4 Français qui peuvent jouer avec les gros.
Le bonheur.
Donc on a déjà hâte d'être demain.
Bien sûr. On a eu 5 Français dans les 11 premiers hier.
Et qui sera sur la moto demain ?
C'est moi encore. Je m'y colle de nouveau. Là, j'espère des grandes banderoles, parce que j'arrive chez moi, donc je vais prendre un plaisir.
J'espère voir des coureurs surtout.
Ouais, demain, logiquement.
Je vais en voir un peu plus.
Alors, j'espère que les leçons ont été tirées d'aujourd'hui. finalement, c'est pas mal d'être devant. Ça évite les chutes déjà.
Ouais.
Et puis la course est animée. Moi, je serai là, je verrai des coureurs, je vous analyserai.
Mais t'as vu tous tes copains aujourd'hui, t'étais bien là avec tous
tes copains. Ah, mais ils ont plus trop le profil de coureur. Hein. J'avais un peu un complexe avec la cabine que j'ai amenée sur ce tour, mais je suis pas le seul. Je vois que on est tous à peu près pareil. On se tient les 5-6 premières années, puis alors après, c'est n'importe quoi.
Merci Jérôme. Merci les Jérômes au carré. Merci Maria. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Benoît Boutron Nicolas Jamin, pardon, pour l'After Foot. Sachez également que toute cette semaine, l'After Tour et Jules, partenaire officiel du Tour de France 2025, vous gâte. Ben oui, messieurs, dames. À l'occasion de la grande boucle, vous tentez de remporter une carte cadeau de 50 euros, valable dans l'une de nos 400 boutiques, et un t-shirt de la collection exclusive Jules, Tour de France 2025. Tu serais beau comme ça en Jules. Pour emporter vos cadeaux, Jules, vous envoyez le mot sprint au 7-32-16. Sprint au 7-32-16.
Jules, la marque de vêtements engagée et accessible, partenaire officiel du Tour de France 2025, vous gâte sur RMC. Jules. Et en plus, vous êtes beau.
En plus, vous êtes beau.
Ouais, ça va nous changer.
Ça va nous changer un peu. Allez, Nico Jamin dans un instant. L'After Foot, rendez-vous demain à 14h pour la 4e étape du Tour de France. Bonne soirée, ciao.
RMC, Intégral Tour.